Bienvenue à tout le monde dans ce temple, les fidèles, hebdomadaires, ceux qui passent comme ça pour accompagner la famille du baptême. Bienvenue à tout le monde. Frères et sœurs, la paix soit avec vous de la part de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. La paix en vous, la paix par vous. Levez-vous et invoquons le Seigneur notre Dieu. Avec le premier spontané qui est dans le recueil du psautier français. Béni sois-tu, Dieu de la vie, toi dont le dynamisme créateur traverse nos existences, traverse notre monde, notre univers. Tu as créé notre planète bleue comme aussi les étoiles, les galaxies, toute l'énergie cosmique et cet élan universel de vie irrépressible nous entraîne dans son grand fleuve, avec tous les hommes que tu aimes, avec tout ce qui respire. Béni sois-tu, Dieu de la vie. Amen. Et je vous invite à chanter dans le psautier français, le psaume 8, les trois premières strophes. Les cantiques spontanées sont dans la couverture du psautier français. Écoutons, frères et sœurs, la volonté de Dieu. Dieu est amour. Dieu est l'élan d'amour qui ouvre à la compassion, qui nous dit ce qui est bon ou non, ce qui est juste ou injuste, vrai ou faux. L'amour est le fondement de la justice qui veut le bien de tous. L'amour dit le droit, définit les responsabilités, les devoirs, les obligations de tous. L'amour partage entre tous les opportunités qui se présentent pour tous. L'amour est la justice que l'on met en œuvre dans la vie du monde et qui produit le droit et l'équité pour tous. L'amour est pour tous les hommes. Amen. Inclinons-nous dans la prière de repentance. Notre Père, nous déposons devant toi toutes nos peines, nos fautes, nos erreurs, nos transgressions, nos afflictions, nos soucis, nos révoltes, notre amertume, tout notre cœur. Toute notre vie, que tu connais mieux que nous-mêmes, telle que tu nous vois, nous remettons tout entre tes mains. Notre inquiétude, afin que tu l'apaises. Nos péchés, afin que tu les pardonnes. Nos pensées, afin que tu les purifies. Toute notre vie, afin que tu nous conduises à la vie éternelle. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Écoutons l'annonce de la grâce. Notre Père nous donne toujours son esprit. Il nous donne sa force. Il nous donne son souffle de vie, son dynamisme créateur. Il nous donne des yeux nouveaux qui voient, des oreilles qui entendent, des yeux qui voient dans la nuit du monde. Des oreilles qui entendent les cris muets, comme Jésus nous l'a montré. Il nous donne un cœur toujours nouveau, un cœur qui bat au rythme du cœur de Jésus, son Fils. Levez-vous et chantons-lui notre reconnaissance.
Thank you.
et nous confessons la foi chrétienne. Je crois en l'homme, en sa faculté de faire un choix dans la vie. Je crois l'homme capable de sourire au lieu de se mettre en colère, de garder intact son espoir, même quand tout marche de travers, de rester joyeux pour les autres, même après la perte d'un être cher. Je le crois capable d'aimer même son ennemi, de se mettre à la place de l'autre pour comprendre, de ne pas critiquer son voisin a priori sur la couleur de sa peau, sur sa religion, ses idées politiques ou ses coutumes. Je le crois capable d'oublier son propre intérêt et sa sécurité pour se préoccuper de l'intérêt et de la sécurité de l'autre. Je le crois capable de transformer ce monde de violence et d'argent en un monde de foi et d'amour. Je crois en l'homme parce que Jésus était ainsi et que par lui, l'Esprit de Dieu agit en nous. C'est pourquoi je crois en l'homme, puisque Dieu croit en l'homme. Amen.
Je vous invite à vous asseoir. Alors ce matin, nous sommes tout particulièrement heureux d'accueillir Mathieu Le Goff, qui a demandé le baptême. C'est une joie pour nous tous d'être avec lui en ce jour important de son itinéraire de croyant. C'est une joie pour sa famille et pour toute l'Église. Nous venons de proclamer notre foi. Voici la volonté de Jésus-Christ qui, à ses disciples, déclare « Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez, de toutes les nations, faites des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à garder tout ce que je vous ai enseigné. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Mathieu, je t'invite maintenant à venir auprès du baptistère avec tes parents, avec ton parrain Martin Simon et ta marraine Juliette Lauverge. Voilà Mathieu, je vais me tourner vers toi, ça sera plus sympathique. Tu vas à l'école biblique, tu es engagé dans le scoutisme comme Louveteau, dans la meute de l'oratoire Pyramide. Tes parents te parlent de Dieu et du Christ. Le soir, ils te racontent des récits de la Bible. Maintenant, peux-tu nous dire pourquoi tu demandes le baptême ?
J'ai entendu que Dieu nous sauve gratuitement sans tenir compte de nos mérites ou de nos mauvaises actions. J'ai entendu l'histoire de Jonas que Dieu appelle pour une mission et désobéit. Il fuit pourtant Dieu le sauve et lui envoie un gros poisson qui le relâche sur la terre ferme. Du coup, je me sens heureux, je crois que le bonheur existe et j'aime la vie. Comme dans les noces de Cana où Jésus intervient et sauve la fête.
Voilà, tu aimes la vie et tu as bien raison. Je vous invite maintenant, frères et sœurs, à vous lever pour le baptême.
Matthieu, veux-tu être baptisé ?
Oui, je le veux. Jésus-Christ est le Seigneur.
Matthieu, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pour toi aussi, cette parole est vraie. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils pour que tout homme ait la vie et qu'il l'ait en abondance. Voilà, Matthieu, par ce baptême, Dieu te fait signe. Tu viens de proclamer que Jésus est le Seigneur. Tu l'as dit aussi, ce qui compte, c'est la foi. Ce ne sont pas nos bonnes ou nos mauvaises actions, ce ne sont pas nos mérites. Tu fais partie de l'Église, tu l'as demandé, de l'Église protestante, tu l'as demandé en toute liberté. Alors je t'invite bien sûr à continuer de fréquenter l'école biblique, de participer au scoutisme, de venir à l'oratoire. Tu as encore plein de choses à découvrir. Et ton papa maintenant va te présenter à l'Assemblée.
Voilà. Et c'est toi maintenant qui vas lire l'Écriture. Tu as choisi ce texte de l'Évangile de Jean, chapitre 12, ce récit des noces de Cana.
Or, le troisième jour, il y eut une noce à Cana de Galilée, et la mère de Jésus était là. Jésus, lui aussi, fut invité à la noce, ainsi que ses disciples. Comme le vin manquait, la mère de Jésus lui dit « Ils n'ont pas de vin ». Mais Jésus lui répondit « Que me veux-tu, femme ? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur « Quoi qu'il vous dise, faites-le. » Il y avait là 6 jarres de pierre destinées aux purifications des Juifs. Elles contenaient chacune 2 à 3 mesures. Jésus dit au serviteur « Remplissez d'eau ces jarres. » Et ils emplirent jusqu'au bord. Jésus leur dit « Maintenant, puisez et portez-en au maître du repas. » Ils l'y emportèrent et le maître goûta l'eau devenue vin. Il ne savait pas d'où venait à la différence des serviteurs qui avaient puisé l'eau. Aussi, il s'adresse au marié et lui dit « Tout le monde offre d'abord le bon vin et lorsque les convives sont gris, le moins bon jusqu'à maintenant. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. » Tel fut à Cana de Galilée le commencement des signes de Jésus. Il manifesta la gloire et ses disciples crurent en lui. Après quoi, il descendit à Capharnaüm avec sa mère, ses frères et ses disciples. Mais ils n'y restèrent que peu de jours.
Merci Matthieu pour cette lecture. Frères et sœurs, vous êtes les témoins du baptême de Matthieu. Ce signe nous rappelle que l'amour de Dieu, il est toujours premier et que le Seigneur, il est fidèle. Aujourd'hui, nous accueillons Matthieu comme notre frère dans notre Église. Aucune contrainte ne le retiendra dans la communauté. S'il vient à s'en séparer, nous disons qu'il peut toujours y revenir, y retrouver sa place. Vous êtes sa famille spirituelle. Je vous invite à lui faire bon accueil et que Dieu nous soit en aide. Nous allons maintenant prier et rendre grâce.
Seigneur, Nous t'exprimons notre joie et notre gratitude pour Matthieu, qui vient de recevoir le baptême, le signe de ta grâce. Comme l'annonce le livre du prophète Ésaïe, « Moi, je ne t'oublierai pas, dit Dieu. Voici, je t'ai gravé dans mes mains. » Nous te remercions, Seigneur, d'avoir gravé le nom de Matthieu dans la paume de ta main. Matthieu signifie, vient de l'hébreu, Matat Yahvé, qui signifie don de Dieu. Que ce nouveau baptisé se rappelle que Dieu donne la grâce gratuitement. Seigneur, nous te confions Matthieu et nous le confions à son parrain, à sa marraine et à toute cette assemblée qui est sa nouvelle famille spirituelle. S'il devait s'éloigner ou errer, qu'il se rappelle qu'ici, il retrouvera les siens. Martin Luther raconte que dans les heures les plus sombres où il se sentait menacé de toutes parts, il avait gravé dans le bois de sa table de travail trois mots. « Je suis baptisé ». Son souvenir lui redonnait courage. Matthieu a la chance d'être suffisamment âgé pour se souvenir de ce jour. Seigneur, fais que ce souvenir lui permette d'aller de l'avant et de reprendre courage dans les épreuves, de grandir et de participer à la construction d'un monde plus libre et plus juste. Apprends-lui aussi l'humilité et la simplicité qu'il a tendance à oublier dans ses réussites. Seigneur, enseigne-lui, comme le proclamait Wilfred Monod, à servir Jésus-Christ sans le nommer, plutôt qu'à nommer Jésus-Christ sans le servir. Qu'il cultive sa nature enjouée et son rire, afin qu'à l'image du récit des noces de Cana, il apporte la joie à ceux qui le côtoient. Et pour finir, voici une parole de l'Ecclésiaste, chapitre 9, versets 7 et 8, qui est un écho au texte de l'évangile de Jean que Matthieu nous a lu. « Va, mange avec joie ton pain et bois de bon cœur ton vin. Dieu a agréé tes œuvres. Que tes vêtements soient toujours blancs et que l'huile ne manque pas sur ta tête. »
C'est maintenant le Martin qui va prendre la parole.
Moi, j'ai juste un petit mot à dire parce que c'est la première fois que je suis parrain. Et donc, quand vous m'avez fait cette demande, d'abord, j'étais très honoré puisque c'est la première fois. Et puis, en même temps, avec ce titre de parrain, il incombe forcément une mission. Et c'est une nouvelle première fois, comme la première fois que je suis devenu père. Ben, j'ai appris à devenir père. Donc là, cette fois-ci, je vais apprendre avec toi à devenir parrain. Voilà.
Puis la marraine, Juliette, va aussi nous dire quelque chose.
Cher Matthieu, en ce jour important et solennel de ton baptême, voici ce que je te souhaite pour que ton appartenance chrétienne et protestante te soutienne dans la vie. Je te souhaite de sentir en toi le socle de la foi et l'élan de l'amour de Dieu. Je te souhaite de trouver dans la Bible une source qui t'abreuve de façon toujours renouvelée et de voir dans tout ce que tu croises tes frères humains. Je te souhaite d'avoir du courage et l'intelligence de l'exprimer opportunément. Je te souhaite une vie douce avec toi-même et avec les autres. Je te souhaite enfin de voir les dons qui t'entourent et de savoir rendre grâce. Pour ton chemin et mon plaisir de t'y accompagner, je rends grâce à Dieu.
Voilà, et maintenant, Coralie va lire une prière qui a été rédigée par deux amis très proches de la famille de Caroline et de Samuel, Alfred qui est maronite et Liliana qui est orthodoxe.
Nous te prions, Seigneur, pour Matthieu, que tu as adopté aujourd'hui comme ton enfant. Aide-le à grandir dans la foi, donne-lui un cœur humble et ouvert aux autres, éclaire-le dans les difficultés, protège-le contre la maladie et guide-le dans la vie. Nous te remercions d'avoir la chance de l'accompagner dans sa foi. Nous te demandons de nous aider à lui faire entendre ta parole et à établir avec lui un lien de confiance et d'affection.
Et je vous invite à chanter maintenant le cantique numéro 204. Seigneur, dirige et sanctifie. On va va signer le registre. Je vous invite à vous asseoir.
La lecture que je vous propose, c'est au psaume de la Bible, psaume 139, à partir du début. Je voudrais vous dire en introduction que lors des services funèbres que j'ai eu à présider tout au long de mon ministère, j'ai toujours proposé ce psaume aux familles, parmi d'autres textes de la Bible, et que jamais aucune famille n'a voulu le choisir. Cela m'a interrogé et je voudrais vous suggérer une question et une réponse à son sujet. Pourquoi ce psaume ne plaît-il pas, en tout cas aux enterrements, où on a besoin d'une parole d'encouragement, d'une présence tonique, souriante, me semble-t-il. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant et tu mets ta main sur moi. Où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira, ta droite me saisira. Si je dis, Les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour, les ténèbres comme la lumière. Frères et sœurs, si ce psaume vous a rendu anxieux, je vous fais une seconde lecture qui va vous encourager. Dans l'Épître aux Colossiens, au chapitre 1, Paul dit « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. En lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux, sur la terre, les visibles, les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui, pour lui. Il est avant toute chose. Et toute chose subsiste en lui. Amen. Je vous invite à chanter le cantique 80, les strophes 1, 2 et 3, levez-vous et chantons. Nous t'invoquons, ô notre Dieu, mais ta présence est déjà dans nos cœurs. Nous ne te dirions pas « c'est toi » si tu n'avais déjà murmuré en nous « c'est moi ». Parle-nous, nous t'écoutons. Peut-être n'avons-nous pas envie que Dieu voit toujours tout ce qu'on fait. Peut-être craignons-nous que Dieu sache tout ce qu'on dit, que Dieu ait connaissance de tout ce qu'on pense. Peut-être que nous trouvons que ce regard permanent sur nous a quelque chose d'inquiétant, de menaçant. Vous savez, quand Victor Hugo disait « l'œil » dans la tombe et regardez Caïn. Peut-être que les gens disent « ce psaume tout de même est très inquiétant ». Alors, j'ai essayé d'écrire le contraire de ce psaume. Vous allez voir si c'est plus rassurant. Éternel, tu ne te rends pas compte de notre vie. Je ne me sens pas compris. Je m'assieds, je me lève et tu regardes ailleurs. Quoi que je pense, tu n'en tiens pas compte. Où irais-je pour toucher ton esprit? Tu n'es jamais là. Aujourd'hui, les ténèbres me couvrent. Je ne vois aucune lumière devant moi. Les ténèbres demeurent obscures autour de moi. Moi, je trouve que c'est encore plus terrifiant. Mais la question, naturellement, c'est pourquoi a-t-on peur du regard de Dieu? C'est peut-être parce qu'on pense qu'il est menaçant comme le regard de l'agent de police qui vous arrête et dont vous dites « il va sûrement trouver dans ma voiture quelque chose qui n'est pas en ordre », comme l'instituteur qui corrige une dictée. Il y a toujours, naturellement, des accords de participe qu'on n'a pas vus. Quelle idée se fait-on de Dieu lorsqu'on a peur de penser que Dieu nous connaît et nous voit toujours? L'idée, peut-être, c'est que c'est fréquent, d'un vieillard dans le ciel à notre image, comme nous, nous aimerions être, comme nous, nous serions, si on nous rendait tout-puissant, omniscient, omniprésent. Un Dieu à notre image. Après tout, quelqu'un a bien dit, si les chevaux pouvaient avoir une idée de Dieu, ils diraient c'est comme un grand cheval. Si nous pouvons nous faire une idée de Dieu, c'est peut-être horreur. Un Dieu comme nous serions, redresseur de tort, peut-être, arrêtant le chauffard dangereux, punissant le loupard, justicier, culpabilisant, menaçant, méchant. Mais Dieu n'est pas à notre image. Heureusement, il est à l'image de Jésus. C'est cette fausse image, facilement moralisatrice, culpabilisante, qu'on projette alors sur le psaume 139 lorsqu'on en a peur, lorsqu'on ne le veut pas. On a facilement cette idée. Je pensais aux messes que l'on dit chaque année au mois de janvier pour le repos de l'âme du roi Louis XVI. Je n'ai pas de sympathie particulière pour le roi Louis XVI, mais enfin, je pense tout de même que depuis 1793, cela fait 225 ans qu'il est dans les flammes du purgatoire, qu'on fait chaque année une messe pour le repos de son âme, et que Dieu, semble-t-il, répond chaque année non, pas encore. Quelle idée de Dieu risque-t-on alors de faire ? D'ailleurs, on entend dire souvent, c'est les enfants qui le disent, quand ils reviennent du catéchisme, pas à l'oratoire, mais dans les autres paroisses. La religion, c'est tout ce qui est interdit. D'ailleurs, les gens disent ça. Dieu est contre le divorce. Dieu est contre l'homosexualité. Dieu est contre l'IVG. Avez-vous remarqué hier, à la télévision, la liesse populaire extraordinaire de tous ces jeunes en Irlande qui étaient heureux d'être délivrés du règlement catholique concernant l'IVG. Pas seulement les catholiques d'ailleurs, il y a aussi des protestants conservateurs en Irlande qui eux aussi étaient tout à fait contre. Vous savez, les orangistes en orange. Dieu qui est contre ça, qui est contre le contrôle des naissances, qui est contre l'euthanasie, qui est contre l'assistance médicale à la procréation, qui est contre la gestation pour autrui. Pas chez les protestants, nous avons une déclaration de la Fédération protestante, du comité d'éthique, que j'ai trouvé libérale, remarquable, très bien, j'en suis content. Attention quand même. D'ailleurs, disent les gens, finalement, on n'a pas besoin de Dieu pour penser librement en homme du XXe siècle. Hier, à la télévision, les journalistes parlaient tout naturellement de la modernisation de l'Irlande, maintenant qu'on est libéré des règlements catholiques et orangistes. Un fidèle d'une paroisse dont j'étais pasteur, un conseiller presbytéral même, un modèle, m'a dit « Les athées ont tort ». Nous sommes bien d'accord, mais ils sont quand même plus heureux que nous. C'est un peu, me semble-t-il, la raison pour laquelle on craint ce psaume 139. Alors, j'ai trouvé une parole réconfortante d'une collègue, la pasteure Lorraine Van Ham, qui est pasteure à Berkeley en Californie, et qui a écrit ceci, je vous le traduis, parce que ça nous décoince, à supposer qu'on soit coincé. Elle écrit « L'univers a commencé sa gigantesque expansion complexe et impressionnante il y a 13 milliards 700 millions d'années et l'humanité n'est arrivée sur scène qu'il y a 5 millions d'années. Dieu est donc et a été le Dieu de bien des choses, et pas seulement de l'humanité. Tout ce qui a existé pendant ces milliards d'années et tout ce qui existe actuellement vivait de sa vie, de sa créativité. Toute vie, continue Lorraine Van Ham, toute vie est une manifestation de la vie, du mouvement, de l'être de Dieu. Mon voisin de palier, les rangées de légumes de mon potager, l'hôtesse de l'air, les chats sauvages derrière la piste cyclable, les otaries du delphinarium, etc., etc. Dieu est la vie. Et la vie vibre
partout autour de nous, comme nous le constatons bien. Et je pense qu'elle a raison, cette pasteur. D'ailleurs, c'est ce que disait l'auteur de l'Épître aux Colossiens. En lui, celui que l'auteur appelle le fils de son amour, en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux, sur la terre, les visibles, les invisibles, tout a été créé par lui, pour lui. Toutes choses subsistent en lui. Ce dynamisme créateur est à l'œuvre depuis la fondation du monde. Paul le nomme le fils de son amour. Et il voit ce dynamisme créateur, l'axe du monde, à l'œuvre en Jésus-Christ. Alors je voudrais vous citer, déjà dans l'Ancien Testament, au livre des Proverbes, au chapitre 8, un texte remarquable. Je vous apprends le mot hébreu, chokma, avec un « ch » au début. La chokma, on le traduit par « sagesse ». Mais vous allez voir que cela ne va pas du tout, parce que quand on dit « sagesse », on pense à un enfant qui ne bouge pas les pieds pendant le culte et qui est immobile. Et là, c'est exactement le contraire. La chokma, c'est la créativité divine. Proverbe 8 écrit, c'est la chokma qui est personnalisée. L'Éternel n'avait encore fait ni la terre, ni les campagnes, ni le premier atome de la poussière du monde. Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là, dit la chokma. Lorsqu'il posa les fondements de la terre, j'étais à l'œuvre, auprès de lui. Et je faisais tous les jours ses délices, jouant sans cesse en sa présence, jouant sur le globe de la terre et trouvant mon bonheur parmi les fils des hommes. Ézéchiel, le prophète, en un temps de dépression du peuple pendant l'exil à Babylone, Ézéchiel ne dit pas la chokma, il dit un mot synonyme, la ruach, que l'on traduit maladroitement aussi par esprit, parce que esprit, vous savez, les Anglais disent ghost, le saint fantôme, mais ce n'est pas du tout ça. La ruach, c'est le même dynamisme créateur que la chokma, et il dit, Dieu dit, parle à la ruach, et dis-lui la vie sur ses ossements, et tous ses ossements sur la vallée, complètement sec, se lève et vive. C'était une armée nombreuse, très nombreuse, car la ruach est créatrice. Jean, dans son évangile, dira le logos en grec. Et il donne le même sens, sans doute, à ce mot logos, qu'on traduit par la parole ou le verbe. Cela aussi manque de dynamisme. Au commencement était le logos. Le logos était avec Dieu. Le Logos était Dieu, il était au commencement avec Dieu et toutes choses ont été faites par lui. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. En lui était la vie et la vie était la lumière des hommes. Paul, s'adressant aux Athéniens, dira simplement Dieu. Et quand il dit Dieu, vous allez voir, c'est bien autre chose que lorsque les Athéniens disaient « Zeus ». Quand il dit « En Dieu, nous avons la vie, la respiration, le mouvement et l'être », franchement, cela ne fait pas peur, cela n'est pas menaçant, cela est une force qui monte en nous et qui nous rassure lorsque justement nous pensons que nous manquons de vie. La vie, l'élan vital qui monte en nous comme la sève monte dans les plantes, comme l'électricité fait fonctionner les machines. La respiration, sans laquelle nous serions étouffés en nous-mêmes, barricadés, asséchés. Le mouvement, sans lequel nous serions sans force, fatigués, incapables de se lever le matin, avec tout ce qui nous attend, et l'être, parce que nous ne sommes pas des robots, nous avons une présence divine en nous. Dieu nous donne la vie, la respiration, le mouvement et l'être. Lorraine von Hamm a bien raison de parler des légumes de son potager qui poussent parce que le dynamisme créateur de Dieu les fait pousser, comme c'est le cas depuis 14 milliards d'années. L'hôtesse de l'air aussi, et les chats sauvages également. Et je prolonge sa confession de foi, qui était celle de la Chokhmah, de la roi, du Logos, de Dieu. La Chokhmah, cette présence de Dieu, accompagnée il y a 3 milliards et demi d'années, la première bactérie qui s'est, dit-on, partagée en deux, et la Chokhmah lui disait: allez, vis, partage-toi. Et elle l'a fait. Les premiers êtres, les premiers poissons, mammifères, je ne sais pas trop, qui il y a 400 millions d'années sont sortis de l'eau. Un poisson ne peut pas sortir de l'eau. Ils sont sortis de l'eau. Ils ont dit: peut-être. Et la Chokhmah a dit: oui, vivez. Eh bien, ils sont sortis de l'eau, ils ont vécu. Dieu, quand on dit peut-être, Dieu dit oui, parce que c'est le Dieu créateur de la vie. Il ne dit jamais non. Et c'est en cela que les jeunes d'Irlande avaient raison hier soir de chanter leur joie, un grand oui, parce que ce n'est pas Dieu qui est frileux et qui incite à la prudence, c'est nous qui sommes frileux et qui avons peur de l'avenir. Dieu est l'âme du monde, la vie du monde, il est l'harmonie, il est le grand mouvement de la vie du monde. Et pour que nos esprits trouvent la paix, il faut leur donner du repos en Dieu. Ne dites jamais, Éternel, tu ne te rends pas compte de notre vie. Je ne me sens pas compris. Je m'assieds, je me lève et tu regardes ailleurs. Dieu est notre vie, notre mouvement et notre être. Et dites, tu sais quand je marche et quand je me couche. Tu m'entoures par derrière et par devant. Tu mets ta main sur moi. Si je dis les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. Dieu en nous, nous en Dieu, la paix avec nous, la paix en nous et la paix par nous. Amen.
Voilà, je vous invite à vous lever pour chanter le cantique numéro 400. Nous chanterons les strophes 1, 2 et 3 du cantique 400.
Chers frères et sœurs, quelques annonces. Tout d'abord, un grand merci à Gilles Castelnau pour son culte, sa prédication qui nous invite à interagir avec la ROCMA. Et merci à Alexandre Korovitch pour son accompagnement. À l'issue de ce culte, accueil dans la grande sacristie et de l'autre côté, vente de gâteaux par les éclaireurs loups. À 16h aujourd'hui, au Temple, concert du Chœur de l'Oratoire, sous la direction de Fabien Aubé et avec à l'orgue Alexandre Korovitch, ainsi que des solistes. Et au programme, il y aura Mendelssohn, Whitaker, Redger et des chants traditionnels arabes et hébreux. Demain, lundi 28 mai, grec biblique pour progressants, de 19h30 à 21h, salle Roberti avec Aurore Mériot. Jeudi 31 mai, hébreu biblique pour débutants. De 19h30 à 21h, salle Verne avec Christophe Siemenski. Répétition du chœur toujours le jeudi 31 mai, de 19h30 à 20h30, salle Mono avec Fabien Aubé et Alexandre Korovitch. Samedi prochain, 2 juin, récital d'orgue par Sarah Kim à 17h au Temple, avec Bach, Mendelssohn, Falla, Bartok, entre autres. Et dimanche prochain, culte présidé par Michel Bertrand, qui est professeur honoraire de théologie, avec David Cassan à l'orgue. Une vente de gâteaux dimanche prochain aussi par les éclaireuses Koala. Et il y aura un repas malgache en lien avec, bien sûr, la communauté d'Amparibé. Et merci de vous inscrire pour faciliter la vie des organisateurs. Juste avant le message du président, pour vous prévenir qu'il y a en vente à la librairie le livre de Bernard Cotteret, Le siècle de l'édit de Nantes. Et je donne la parole à André.
Bonjour à tous. Je vais demander au professeur Laurent Gagnebin de bien vouloir nous rejoindre avec ici. En effet, vous avez peut-être, pour certains d'entre vous, participé au dernier culte que le pasteur, professeur Laurent Gagnebin a tenu présider ici le 6 mai dernier. Et nous souhaitions lui témoigner notre fidélité, notre amitié, notre reconnaissance. Et nous savons qu'il est un paroissien et nous y sommes très attachés, fidèles à l'oratoire. Alors très modestement, nous voudrions te témoigner, Laurent, cher Laurent, notre amitié et notre reconnaissance. Et nous savons que tu aimes beaucoup la lecture, que tu aimes notamment une auteure, Madame Simone de Beauvoir. Donc nous t'offrons, au nom du Conseil presbytéral et de la communauté qui s'y associe, les œuvres de Simone de Beauvoir. Et puis nous avons également adjoint les œuvres théâtrales de Jean Cocteau, car je crois que tu aimes aussi beaucoup Jean Cocteau en tant qu'auteur de théâtre. Donc ça te fera des lectures, j'espère que tu penseras à nous, et puis nous sommes toujours très très heureux de te voir le dimanche parmi nous au culte. Voilà, c'est...
Je suis très, très touché par ce geste si généreux qui dit quelque chose de vous et de moi, de nos fidélités réciproques. Je ne savais pas en arrivant au culte ce matin qu'il y aurait ce moment-là. Donc c'est l'inattendu, comme dans les noces de Cana, cher Mathieu. Le vin a pu être là de manière tout à fait surprenante. En général, dans les églises, on préfère changer le vin en eau que l'eau en vin. Donc, essayons de suivre la leçon de ce texte biblique. Et puis, tu nous as dit « j'aime la vie ». Oui, moi aussi j'aime la vie. J'essaye toujours de l'aimer malgré tout et malgré nous, parce qu'il y a des moments où nous n'aimons plus trop la vie. Et puis, merci à Gilles pour ce psaume 139 qui me rappelle un vieux souvenir de l'oratoire. J'ai organisé, dès la première année où j'ai été pasteur ici, dès la seconde année, je suis arrivé en 63, hein, et puis j'ai organisé en 64 un voyage en Sicile pour des jeunes de l'oratoire. À l'époque, c'était encore des paysages sauvages en Sicile. Nous dormions sous la tente ou à la belle étoile. Et un soir, au bord de la mer, alors que nous étions tous en maillot de bain, j'ai lu le psaume 139. Et je sais que pour celles et ceux qui étaient là, le coucher du soleil arrivait. Ce fut un moment inoubliable. Merci Gilles, merci à vous. Or, j'aimerais encore vous dire tant de choses. Oui, alors Cocteau, ça peut vous surprendre. Je ne sais pas si vous connaissez sa pièce Bacchus. Rien à voir avec le vin, en l'occurrence, et les noces de Cana. Mais dans cette pièce, indirectement, c'est un hymne à la réforme protestante. C'est bon à savoir. Et dans Les mariés de la Tour Eiffel, il y a une parole que j'aime beaucoup, beaucoup. Ce petit drame inattendu, lui aussi, de Cocteau, où il se passe des choses assez extraordinaires, et un des personnages dit « Puisque ces mystères me dépassent, feignons d'en être les organisateurs. » Je trouve que c'est une parole théologique et qu'elle peut nous inspirer. Voilà, chers amis, j'ai tant de choses à vous dire, surtout sur Simone de Beauvoir. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà raconté. Mon premier éditeur m'avait commandé un livre sur Gide, puis un livre sur Camus, puis un livre sur Simone de Beauvoir, qui est paru d'ailleurs en mai 68. Quel événement. Et quand je lui ai envoyé le manuscrit, il l'a refusé. Il me l'avait commandé, je lui ai dit que c'était son droit. Et il m'a dit, vous êtes le premier auteur à qui je refuse un livre et qui ne se brouille pas avec moi. Alors, tant mieux, mais moi je trouvais que c'était un peu injuste et que ce livre n'était pas si mal que ça. Alors je l'ai envoyé à Simone de Beauvoir, dont je ne connaissais rien, que je n'avais jamais rencontré, dont je n'avais pas l'adresse. Je l'ai envoyé à la revue de Sartre et de Simone de Beauvoir, qui s'appelait et qui s'appelle toujours Les Temps modernes. Pas de réponse, pas de réponse. Environ 2 mois d'après, je reçois une lettre de Simone de Beauvoir qui me dit « C'est incroyable que j'ai trouvé votre livre parce qu'il y a un tel désordre au temps moderne que j'aurais très bien pu ne jamais l'ouvrir. » Et puis, j'avais décidé de vous le renvoyer sans trop le lire parce que vous me disiez 2 choses qui, pour moi, accumulaient les catastrophes. Vous me disiez que vous étiez suisse et pasteur. Et puis, j'ai commencé à lire votre livre, et je l'ai lu en entier, et je vous le renvoie avec une préface qui était conclue par ces mots « On me lira mieux vous ayant lu ». Alors pour moi, vous voyez, c'est un événement que je n'oublierai jamais, qui m'a beaucoup marqué. J'aime beaucoup Simone de Beauvoir. Elle disait une chose un peu aigre et qui n'est pas totalement étrangère aux paroisses, dans ses mémoires qui viennent d'être éditées à la Pléiade, « Dans ma famille, on haïssait le mensonge, mais on cachait soigneusement la vérité. » Voilà, chers amis, merci. Je suis très touché.
Grand merci Laurent pour ton témoignage. Et maintenant, Dieu aime ceux qui donnent avec joie, donc c'est le moment de la collecte.
Frères et sœurs, je vous invite maintenant à la prière d'intercession. Ô notre Dieu, en toi nous avons la vie, le mouvement et l'être. Et ce matin, nous voulons encore te dire merci. Merci de nous avoir réunis en ce jour. Merci pour tes dons, pour tes promesses. Merci pour tous les espoirs que tu suscites en notre cœur. Nous te prions, envoie ton souffle sur notre monde. Envoie ton souffle sur nous, en nous, et répands-le par nous. Oui, envoie ton souffle sur chacun d'entre nous, qu'il nous rende audacieux, qu'il transforme nos peut-être en un oui confiant. Nous te prions pour celles et ceux qui ont mis leur espérance en toi. Renouvelle-les. Nous te confions ceux qui doutent de pouvoir mettre leur espérance en toi. Affermis-les. Nous te prions pour ceux qui ont cessé d'espérer en toi. Ressuscite-les. Nous te prions pour ceux qui sont sans espoir parce qu'ils ne te connaissent pas. Manifeste-toi à eux. Et nous te demandons de nous aider à être des porteurs de vie et d'espérance, de nous aider à annoncer cette vie au monde par nos pensées, nos paroles et nos actes. Ô notre Dieu, en toi nous avons la vie, le mouvement et l'être, et nous voulons te dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous, manifestez de la douceur envers tous. Le Seigneur est proche, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes circonstances, demandez à Dieu dans la prière ce dont vous avez besoin. Demandez-le-lui avec un cœur reconnaissant et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Allez dans la paix de Dieu. Amen.